J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance.
Voilà quelques mesures d'Abdel Malik pour ouvrir un magazine de la rédaction un peu particulier en partenariat avec Amnesty International, association créée en 1961 qui milite pour que chaque individu sur Terre puisse faire valoir ses droits. Amnesty a lancé, c'était le 7 décembre dernier, le marathon des signatures. Il a duré une dizaine de jours environ et nous accueillons ce soir Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors avec vous, on va tenter de dresser le bilan, si on peut déjà, de cette initiative et puis avec nos correspondants en Afrique, en Amérique, en Asie. On va s'arrêter sur quelques cas emblématiques, 5 cas particuliers que Amnesty a choisi de défendre. Mais d'abord un mot peut-être du principe, Geneviève Garrigos, vous allez me corriger si nécessaire, mais il s'agit d'écrire pour soutenir des causes bien spécifiques.
Absolument. Et en fait, Amnesty est né du soutien à des personnes qui étaient arbitrairement arrêtées ou torturées, etc. Et de ce fait... Tout au long de l'année, nous avons ce que nous appelons des actions urgentes pour des personnes qui sont en danger ou menacées. Et là, une fois par an, aux alentours du 10 décembre, eh bien, à travers le monde, cette année c'était dans 80 pays, nous nous mobilisons pour signer des pétitions, écrire aux autorités, des messages de soutien.
Et c'est une opération... Il y a plus d'un million de messages, c'est ça quand même.
Au jour d'aujourd'hui, on est à plus d'1,3 million et quelques au niveau mondial. En France, eh bien, on est particulièrement satisfait de la mobilisation, puisque l'année dernière, on était à 150 000 et là on a dépassé les 450 000.
Une progression
avec
fulgurante.
Certains de nos collègues africains, mais une très belle progression. Et ce qui est important, c'est que c'est pas uniquement le fait qu'on ait des signatures, c'est les avancées que ça va permettre d'obtenir.
Vous
pour
allez
ces
nous
personnes.
En parler, bien sûr. Alors on va commencer notre tour du monde avec ce qui est sans doute un des pires scandales écologiques de la planète, parce que la défense des droits, ça passe aussi par la défense du droit à l'eau, du droit à la nourriture et du droit à la santé. On part donc pour le delta du fleuve Niger qui se situe au Nigeria. C'est, ou plus exactement, c'était l'un des 10 plus vastes écosystèmes humides de la planète. Or, depuis un demi-siècle, depuis 1958 exactement, eh bien Shell et ensuite Exxon, Total, Eni y ont découvert des réserves de pétrole gigantesques. Le résultat est un désastre absolu puisqu'on dénombre, ça ce sont des chiffres du programme des Nations Unies qui avait mené l'enquête, on dénombre 6800 déversements sauvages de pétrole dans ce delta entre le milieu des années 70 et l'an 2000, ce qui fait donc, excusez-moi pour tous ces chiffres, mais enfin c'est quand même énorme, 3 millions de barils de pétrole déversés en 25 ans. Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez rencontré, Claude, la semaine dernière, des membres d'un petit village qu'on appelle le village Bodo et qui se situe en pays Ogoni. C'est pas loin du tout de la ville de Port-Harcourt, là où sont retranchés, si j'ose dire, les employés de la firme française Total. En tout cas, les habitants de Bodo sont venus raconter dans quelles conditions ils sont condamnés à vivre à cause des multinationales.
Alors oui, nous les avons rencontrés à Paris où ils sont venus interpeller les élus français sur ce qui est, vous l'avez dit, probablement un des plus grands désastres écologiques de la planète. Et le pays Ogoni dont vous parlez, Tara, ce sont 1200 km² quadrillés par les pipelines. Et des pipelines où coulent des flux continus de pétrole au milieu d'un des écosystèmes qui était hier les plus riches du monde, une grosse mangrove où vivent et travaillent les 69 000 habitants de la communauté de Bodo, une communauté où 80% de la population vit de l'agriculture et de la pêche. Écoutez leur histoire.
My name is Pastor Christian Lekobakmande, and Pastor.
Je m'appelle Christian Lekoyak Pandé, je suis pasteur, chef de communauté à Bodo. J'avais une grande ferme piscicole, 6 arpents, avec 3 grands bassins à poissons. Dans l'un, j'avais 1500 poissons chats, dans l'autre, 15 000 mérous, et dans le dernier, des perches du Nil. Je faisais aussi pousser des cocotiers et je cultivais de quoi produire de la noix de Parawenko. J'ai une famille, une femme, 2 enfants et 5 personnes qui dépendent de moi. Et dans ma ferme travaillaient 10 personnes en permanence. Ça, c'était avant. En 2008, un matin, je me suis levé, je suis allé à la ferme et je me suis rendu compte que de l'essence avait jailli de partout, avait tout envahi. Les criques, les étendues d'eau, les mares. Et j'ai vu que tous les poissons étaient en train de mourir. Ils avaient tous avalé du pétrole, il n'était plus consommable, et on n'a pas eu d'autre choix que de tout vider et tout voir mourir en une journée. La richesse des gens de Bodo, ça n'était pas le pétrole. mais la pêche. C'est ça qui leur permettait d'éduquer leurs enfants, de les envoyer à l'université. Mais depuis cette époque, depuis 2008, la vie quotidienne des gens de Bodo est devenue terrible. Rien que vous puissiez imaginer. Pire encore, les enfants ne vont plus à l'école. Les gens n'ont plus rien à mettre sur la table, plus de nourriture, car leur source de revenus a été totalement détruite.
Ce pétrole, il vient d'une fissure dans un des oléoducs de la compagnie Shell. La fuite va durer 4 mois, puis il y en aura une deuxième quelques mois plus tard pendant 10 semaines. Et une troisième encore l'été dernier, l'équivalent de milliers de barils de pétrole qui vont tout contaminer.
Pour dîner, la gastronome ne fait pas dans l'alimentaire. Pas de poisson Tchernobyl, pas de sac de riz humanitaire. Fin gourmet, j'ai proposé un restaurant maquisard où les serveurs peau gasoil rompent avec le silence d'or noir.
L'histoire des Bodo, le groupe Milk, Coffee and Sugar le raconte dans cette chanson « Rachel n'a pas voulu ». Clip illustré par des images impressionnantes. Car le pays Bodo, aujourd'hui, c'est une croûte de goudron et de cendres, des eaux saturées de pétrole, des boues noirâtres, un paysage dévasté, des étendues d'eau dont les pêcheurs rentrent main vide depuis maintenant presque 5 ans. Les conséquences économiques sont désastreuses et celles sur la santé encore plus dramatiques.
Chaque jour, nous respirons les hydrocarbures et la benzine. Les enfants ont les yeux rouges, la gorge brûlante. Ils toussent, des irritations sur tout le corps. Les gens meurent sans qu'on puisse les soigner. Chez nous, si vous portez vos doigts à votre nez le matin, vous voyez ces traînées noirâtres qui en sortent. L'état de santé à Bodo est vraiment catastrophique. En 2011, les gens à Bodo ont pris leur destin à deux mains et ont saisi la justice. Mais au Nigeria, il n'y a pas de justice. On a donc attaqué devant les tribunaux anglais. Nous pensons obtenir justice bientôt. Mais avant que justice se fasse, car le processus est très long, les gens continuent à mourir jour après jour.
Alors face au désastre écologique, le gouvernement nigérien n'a pas réagi. La compagnie Shell, elle s'est d'abord dédouanée en disant qu'il s'agissait d'un sabotage de ses installations, alors liées aux pratiques de vol et de trafic de pétrole, des pratiques qui existent effectivement dans cette région où les richesses liées au pétrole n'atteignent pas les populations locales qui sont elles très paupérisées. Et puis finalement, devant les tribunaux anglais, Shell a admis que la fuite avait bien pour origine la vétusté de ses installations. Alors le procès est en cours, il risque de durer encore très longtemps. Les populations de Bodo n'ont toujours pas été indemnisés. Il faut savoir, Tara, que si demain on mettait tous les moyens financiers et techniques possibles en œuvre pour nettoyer ce delta du Niger, eh bien il faudrait 20 ou 30 ans pour que la zone soit dépolluée.
Si jamais c'est techniquement possible. Merci beaucoup, Claude Guibal. Geneviève Garrigaud, c'est vous qui avez proposé, non, enfin c'est Amnesty qui a proposé aux habitants de Bodo de venir en France.
Oui, nous les avons invités parce que pour donner un ordre d'idée, les fuites à Bodo, c'est l'équivalent de l'Exxon Valdez en Alaska. Et on se souvient à l'époque combien ça avait indigné et les réactions qu'il y avait eues. On peut repenser aussi aux fuites qu'il y a eu avec BP dans le golfe du Mexique il y a quelques années. Et là, ce que l'on voit, autant il y a une mobilisation internationale quand ça concerne des pays, on va dire, développés. Et ici, c'est le silence. Et pour nous, il était très important qu'ils viennent, qu'ils puissent témoigner et qu'ils puissent montrer à Shell que ce n'est pas parce que ça se passe au Nigeria qu'ils ne vont rien faire.
Oui. C'est vraiment un cas d'impunité, emblématique.
Total. Et en fait, Shell se rejette, comme vous l'avez dit qu'il s'agissait au départ d'attentats, de vols, etc. Maintenant, ils reconnaissent la vétusté. Mais il y a un rejet, c'est la balle qui est passée entre le gouvernement et la compagnie Shell. Et on est très contents parce que le 14 décembre, la CDAO a émis un jugement en clairement, les entreprises doivent assumer leurs responsabilités. Et pour nous, ça fait partie vraiment d'un combat. Aujourd'hui, les multinationales, les sociétés européennes qui ont des activités dans des pays justement du Sud, comme par exemple en Afrique, mais en Asie ou en Amérique latine, doivent avoir le même niveau de responsabilité et avoir les mêmes engagements qu'elles auraient pour un pays, par exemple en Europe.
Alors on peut dire, peut-être juste pour conclure, qu'il y a quand même, en tout cas c'est un chiffre qu'on lit dans la presse, 430 milliards de bénéfices pour ces multinationales du pétrole et 30 millions de personnes qui vivent là-bas, quasiment sans rien. Et évidemment. Il y a le phénomène dont parlait Claude quand même tout à l'heure et que vous venez d'évoquer, des sabotages quand même, des pipelines. Est-ce que les gens de la communauté Baudot en parlent et sont conscients que ça, c'est quand même un risque politique, entre guillemets, pour eux aussi?
C'est-à-dire que ce qu'on voit, parce que c'est un processus, là, on parle de la communauté de Baudot, c'est 2008, hein, la première fuite, mais dans le delta du Niger, ça fait des années, des décennies que cela a lieu. Ce qui fait qu'une partie de la population qui est sans aucune ressource, hein, parce que c'est complètement couvert de pétrole, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Certains vont voler pour le vendre. Mais dans tous les cas, de toute façon, que ce soit suite à
du sabotage
ou que ce soit des fuites, Shell a la responsabilité de nettoyer.
Et on dit qu'il y a aussi le français total dans la région, ce qui n'est pas non plus sans conséquence pour nous. Et puis on peut ajouter qu'il y a maintenant un vrai mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, qui est une sorte de guérilla armée qui a fait beaucoup baisser la production des multinationales ces dernières années et qui a succédé à un mouvement beaucoup plus pacifiste qui était mené à l'époque par Ken Saro Wiwa, qui a lui-même été retrouvé dans un simili-procès. Il a été pendu. Donc voilà, c'est une histoire assez tragique au Nigeria. Alors maintenant, on va passer au chapitre très étendu, lui aussi, de la défense des droits des femmes. Et on reste sur le continent africain pour aller vers le sud, au pays de la nation arc-en-ciel, autrement dit à Johannesburg, où nous attend Sophie Ripstein. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir.
Alors, il faut rappeler que l'Afrique du Sud est quand même le premier et le seul pays, pour l'instant, si je ne me trompe pas, en Afrique, à avoir légalisé le mariage homosexuel. C'était en 2006. À l'époque, il n'y avait que 5 pays dans le monde qui étaient allés aussi loin. L'Afrique du Sud avait aussi, dès 1998, à l'époque c'était sous Mandela, aboli la loi qui punissait les rapports homosexuels. Et en 2002, le gouvernement a autorisé l'adoption pour les couples homo. Voilà pour les progrès importants réalisés sur le plan législatif. Mais dans la réalité, Sophie, c'est bien plus difficile à vivre et vous allez nous parler du cas de Noxolo Nogwaza, qui est, ou plutôt qui était, une lesbienne de 24 ans et qui a été assassinée, Sophie.
Oui, hein, je me suis rendue dans le township de Kwatema, à 40 km de Johannesburg, là où Noxolo a vécu et là où elle est morte, là où avant elle, deux autres lesbiennes militantes et connues pour leur engagement avaient été tuées. Écoutez le reportage.
Sur le bord du chemin, des roseaux dansent dans le vent et des détritus jonchent le sol. Ici, au cœur du township de Kwatema, à 40 km de Johannesburg, Noxolo Ndongwaza, une jeune lesbienne noire, a été violée puis assassinée. C'était le 24 avril 2011. Son ami Ntsupe Moapi se recueille et prononce une prière en sa mémoire. Les premières habitations sont à quelques mètres à peine, mais cette nuit-là, personne n'a rien vu ni entendu.
Les voisins n'ont trouvé son corps que le lendemain matin quand ils sont passés au bord du chemin. Ses dents étaient éparpillées partout, son cerveau aussi, ses yeux ont été arrachés. C'est ce que l'oncle de Noxolo nous a raconté, c'était horrible. Elle était à moitié nue, ses vêtements étaient tirés jusqu'au niveau de ses genoux et il y avait d'énormes briques à côté d'elle couvertes de sang. C'était encore tellement douloureux d'en parler parce que personne ne mérite de mourir comme ça.
Noxolo militait avec elle pour les droits des homosexuels. Le visage rond et les larmes aux yeux, Ntsupe se souvient de son sourire et de sa force de caractère, de son envie de briser les tabous. Peter Mosaeli vit à deux pas du lieu du meurtre. Il a honte. Le township de Kwatema est maintenant connu pour ses assassinats sauvages.
Hier encore, j'étais à une réunion dans une école pour parler de la criminalité et on a évoqué ce meurtre. Quand les conseillers municipaux nous disent qu'on n'a pas trouvé les criminels, je trouve que ce n'est pas juste. Il faut maintenant que les gens comprennent que les homosexuels sont comme ça et qu'on ne va pas les changer.
Bontlé veut que justice soit faite. Cette militante d'époque, une association de défense des droits des homosexuels, va mener le combat jusqu'au bout, même si elle pense qu'il y a peu d'espoir, car la police est homophobe.
Quand vous arrivez au commissariat pour porter plainte, vous devez d'abord subir les moqueries des officiers de police. Ils vont tous venir l'un après l'autre et vous demander de répéter votre histoire à chaque fois. Ils vous posent des questions très gênantes sur votre genre et identité sexuelle. C'est très triste. Et c'est la même chose si vous allez à l'hôpital. C'est très compliqué d'être bien soigné et recevoir les soins dont vous avez besoin.
Bontlé vit avec Nsupé dans les locaux d'époque. C'est une petite maison en dur à Kouatema. Il n'y a ni panneau ni drapeau arc-en-ciel à l'entrée. Elles veulent rester le plus discrètes possible, même si leur association compte aujourd'hui plus de 500 membres. Bontlé raconte qu'Amnesty International a financé les travaux pour construire un mur devant la maison et installer des barreaux aux fenêtres pour assurer leur sécurité. Trop de membres d'époque ont déjà disparu. Une quinzaine de portraits sont affichés sur un mur jaune.
Vous voyez ici, c'est notre mur du souvenir et la photo de Noxolo est là. Heureusement, tous ne sont pas morts assassinés, mais nous avons ici plusieurs visages de gens qui ont été tués. Les autres sont morts du sida ou dans des accidents de voiture. Et vous pouvez imaginer la tristesse de savoir que pour Noxolo, la justice n'a pas été rendue. Et que les meurtriers sont là, dehors. Peut-être qu'on les croise en faisant nos courses. Peut-être qu'on les croise à la station-service quand on fait le plein. Peut-être qu'ils nous surveillent et ils sont libres. Alors il y a de nombreux endroits comme les bars à éviter. Et nous conseillons nos membres de ne pas aller dans ces endroits à risque.
Bontlé et Nsupé ont donc distribué des sifflets aux habitants pour qu'ils puissent alerter le voisinage si la nuit ils entendent des bruits suspects.
C'est le son du sifflet. Comme ça, si quelqu'un souffle dans ce sifflet, tout le monde doit savoir que quelque chose est en train de se passer. Et on espère que les criminels partiront alors en courant.
L'Afrique du Sud bénéficie pourtant d'une réputation de tolérance envers les homosexuels. C'est le seul pays africain où ces derniers sont autorisés à se marier et à adopter. Mais selon Joanne Nel, chercheur en psychologie à l'université de Pretoria, entre la théorie et la pratique, la marge est grande et l'homophobie très répandue.
Nous sommes dans un pays où l'on considère que la norme, c'est d'être hétérosexuel, un pays qui reste patriarcal. C'est surtout le cas dans les townships et dans les bidonvilles du pays, où il y a aussi d'autres facteurs qui jouent, comme le haut taux de chômage, les gens qui sont illettrés, pauvres et discriminés. Et tous ces facteurs font qu'il y a beaucoup de violence d'abord et de crimes, et qu'il y a aussi beaucoup de préjugés, d'idées préconçues. Et puis, vous pensez aux politiciens et à ceux qui ont le pouvoir. Souvent, ils assurent que d'être gay, lesbienne ou transsexuel, ce n'est pas africain. Il y a aussi la religion et le conservatisme qui sont très importants et qui inculquent que c'est un péché ou que les homosexuels sont possédés par le démon ou qu'ils ont été ensorcelés. Et tout cela crée un contexte presque permissif pour que des violences aient lieu contre les homosexuels.
Un groupe de travail a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre l'homophobie, mais aucune réunion n'a eu lieu depuis le mois de juin dernier et les membres d'époque déplorent que jamais ils n'ont été contactés pour participer à la réflexion.
Sophie Ripstein, alors on parle quand même en Afrique du Sud d'une société très très violente. Je lisais les chiffres du Medical Research Council, chiffres de 2009, qui disent qu'un Sud-Africain sur quatre estime avoir déjà commis, enfin avoue plutôt avoir déjà commis au moins un viol dans sa vie. Est-ce que ces viols sont réservés aux lesbiennes justement, Sophie ?
Non, pas du tout. En fait, le niveau de criminalité est très élevé pour l'ensemble de la population. Les violences faites aux femmes sont quotidiennes. En 2011, 56 000 plaintes pour viol ont été enregistrées par la police sud-africaine. Un chiffre certainement sous-évalué puisque la plupart des cas ne sont même pas répertoriés et que les victimes connaissent souvent leurs agresseurs. Alors, l'homosexualité de certaines femmes donne certainement, si vous voulez, aux hommes extrêmement violent, aux agresseurs, une raison de plus pour passer à l'acte et tuer ou violer des lesbiennes.
Alors, est-ce qu'il y a le même genre de discrimination à l'égard des hommes homosexuels ? On parle aussi de crimes de sang ?
Oui, tout à fait. On est dans une société très patriarcale où pour être un homme, il faut avoir une ou plusieurs femmes et c'est très dur pour les hommes homosexuels d'affirmer leur identité. Ils ne sont pas considérés comme de vrais hommes et ils sont régulièrement victimes aussi de viols. Ils sont parfois tués. En juin dernier, un jeune militant est ainsi mort, tué aussi de manière extrêmement violente dans la province du Northern Cape. Il avait été élu Mr. Gay dans sa petite ville, la ville de Kourman, et beaucoup pensent qu'il a été tué parce qu'il militait pour la cause homosexuelle.
Sophie Ripstein, merci beaucoup pour votre participation au magazine de la rédaction. Geneviève Garrigos, vous avez choisi pour Amnesty de parler de la mémoire de Noxolo. Que demandez-vous exactement ?
Eh bien, la première chose que nous demandons, c'est justice, parce qu'un crime de cette nature ne doit pas rester impuni. On le sait très bien, la législation en Afrique du Sud a beaucoup évolué pour la reconnaissance des personnes LGBT. aller. Mais toutefois, les mentalités ne bougent pas. Et clairement, l'homophobie dont fait preuve la police, les difficultés à enregistrer les plaintes, dans ce cas-là, il n'y a même pas eu d'enquête, eh bien, sont déterminantes aussi pour contribuer à changer les mentalités. Parce que tant qu'il y aura impunité, eh bien, cela continuera à sembler normal. Le deuxième aspect, eh bien, c'est bien évidemment que le gouvernement, au-delà de déclarer son soutien à la communauté LGBT, eh bien, mettre en œuvre des mesures de protection pour toutes ces personnes qui finalement sont persécutées en raison de leur orientation sexuelle.
Oui. Alors, on va continuer notre conversation sur les droits des femmes en partant pour l'Égypte, qui est évidemment un pays qui a connu le printemps arabe. Mais on dit aussi que ce printemps s'est mué en automne pour les femmes, c'est ce qu'on entend souvent. On va parler en général d'elles et des agressions sexuelles qui sont devenues un véritable fléau en Égypte. Mais il faut d'abord raconter l'histoire de la personne que vous avez décidé de soutenir, Geneviève Garrigou. Il s'agit de Aza Souleymane. Enfin, elle s'appelle Aza Hilal Ahmad Souleymane. C'est une jeune femme de 49 ans, dont l'agression a fait le tour du monde via Internet. Elle réclame aujourd'hui justice. Alors notre correspondante au Caire, Vanessa Descoureaux, l'a rencontrée. Reportage.
L'assaut a été lancé par les militaires. Ils veulent vider la place occupée par des manifestants. Dans sa veste rouge, on remarque Aza. Devant elle, une femme se fait frapper. Les coups sont si frénétiques qu'ils parviennent même à la dénuder. Ce sera la femme au soutien-gorge bleu, l'image d'une femme à terre, dépoitraillée, piétinée par les coups des forces de l'ordre. C'est pour aider cette jeune fille qu'Aza fait demi-tour. Nouvelle charge des militaires. C'est l'une des rares vidéos de cette agression. La plupart des enregistrements ont été saisis, démolis. Aza est frappée à coups de bâton, le premier sur la tête. Elle perd très vite conscience, raconte-t-elle. Les bâtons, les coups de pied ne s'arrêtent pas. Militaire déchaîné sur un corps qui semble inanimé. Même sur son lit d'hôpital, très vite, Aza a voulu témoigner. Malgré ses deux fractures du crâne, de multiples hématomes, une entaille béante sur la pommette gauche. Un an après, c'est une femme combative qui nous reçoit.
Je me suis demandé comment on pouvait en arriver à cela. Comment peut-on agir envers nous comme cela? Comment l'armée, qui en principe protège le pays, comment elle en arrive à nous frapper avec cette violence? Ils nous frappent, ils nous tuent.
Aujourd'hui, le visage d'Aza est marqué par une cicatrice sous l'œil. Elle dit avoir moins de sensibilité sur le côté gauche de son corps. Elle fait toucher sa hanche, des caillots de sang séché rendent certains déplacements difficiles. Elle continue son traitement pour le cerveau qui a été touché par les coups. Mais le combat d'Aza aujourd'hui est juridique. La fille de militaire qu'elle est, frappée par d'autres militaires, veut voir ses agresseurs devant un tribunal. Pourtant, Aza a une preuve de son agression avec cette vidéo, une preuve qui ne sert à rien devant la justice égyptienne.
Jusqu'à maintenant, pour tous ceux qui ont été tués ou blessés pendant la révolution, aucun des policiers incriminés n'a été condamné. Toute la police a été acquittée, blanchie. Tu crois qu'ils vont aller s'occuper de l'armée? Non, je me sens impuissante. Ça me travaille beaucoup de me dire que je n'ai pas obtenu réparation, que je ne suis pas capable d'y arriver. Je dis toujours, je vais y parvenir, je ne vais pas me taire. Il faut que j'aille devant une cour internationale pour que ce soit au moins un exemple pour les autres, que ça ne se reproduise pas. Ici, dans mon pays, je n'arriverai à aucun résultat. J'aurais aimé obtenir justice ici, j'en aurais été fière. Mais j'aurais le sentiment d'avoir atteint mon but si j'obtiens gain de cause, même devant une cour internationale.
Le dossier d'Aza, ce sont quelques feuilles au milieu de 10 000 pages sur les violences de décembre 2011. Sans réforme sérieuse, elle n'obtiendra pas gain de cause, dit son avocat Ahmed Eshmat.
En principe, pour que le système judiciaire délivre vraiment la justice, il faut qu'il y ait d'abord des changements au ministère de l'Intérieur en faisant partir ceux qui sont coupables de crimes, de corruption. L'autre chose, c'est la mise en place d'une loi d'indépendance des juges qui ferait en sorte que le procureur général soit élu et soit choisi par l'ensemble des magistrats. L'autre problème, c'est les gens qui sortent de l'académie de police et qui accèdent ensuite à des postes au sein de l'appareil judiciaire.
Six avocats se sont regroupés dans ce collectif situé en centre-ville. Ils ont entre 25 et 35 ans. Ils récoltent des milliers de témoignages pour faire condamner les auteurs de violences policières ou militaires. Les murs des locaux sont remplis de photos de la Révolution. Les bureaux, eux, de déclarations et de plaintes.
C'est un dossier très très emblématique hein, de cette révolution, ce policier qu'on appelle le sniper des yeux puisqu'il a Il y a une vidéo où on le voit se féliciter d'avoir très certainement touché un œil d'un manifestant et en promettant d'avoir le prochain la prochaine fois. Et ce procès qui est en cours n'a été possible que grâce à la pression populaire, pas sur les faits.
Oui, effectivement, c'est une action populaire qui a permis à ça. Ce n'est pas les forces de sécurité qui ont présenté le coupable, c'est les gens qui ont fait une recherche pour savoir, pour identifier le responsable.
L'ONG Initiative Égyptienne pour les droits personnels a travaillé longuement sur la réforme de la police. Lors de l'élection présidentielle, elle avait sollicité les candidats sur cette question. Et aujourd'hui, la conclusion est que le nouveau pouvoir ne se sent pas concerné par cette question. Analyse Magda Boutros, elle est directrice du département de justice pénale.
Une des choses principales qui avait fait en sorte que la révolution existe, c'était l'État policier qui existait. À ces niveaux-là, on a l'impression que Morsi n'a pas donné assez d'importance à ces thèmes-là. L'impression qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 2 ans après la révolution, on ne voit absolument aucun changement. Et si changement il y a, c'est un changement négatif.
Encore très récemment, dans le centre du Caire, un jeune homme de 17 ans est mort lors d'affrontements avec la police. Jika, c'est son surnom, est devenu le nouveau visage des martyrs, peint sur les murs du centre-ville, aux côtés des autres jeunes gens tués par les balles ou les coups des forces de l'ordre.
Vanessa Descoureaux, au Caire. Geneviève Garrigos, est-ce qu'à travers le cas d'Aza, Amnesty vise plutôt l'impunité dont bénéficie la police ou bien la question des agressions sexuelles faites aux femmes?
Non, là, on est clairement, une fois de plus, dans la question de l'impunité et de l'usage excessif fait par soit force de police ou par l'armée. Parce que depuis la révolution l'année dernière, ces deux corps ont tué plus de 100 personnes. Il y a des centaines d'autres qui se sont retrouvés avec des handicaps tels que paralysie et cécité. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'enquête. Et là aussi, il faut changer les pratiques et c'est pour ça qu'il faut réellement des enquêtes indépendantes. Il faut que les personnes qui ont commis ces crimes soient poursuivies et qu'on arrête de percevoir cette armée qui utilise une force excessive. Et puis, bon, comme le dit Hamza, non seulement il y a la question de la justice, mais il y a aussi la question de la réparation. Parce que ce sont des personnes qui se retrouvent dans des situations très, très difficiles. Et bien, il faut leur apporter le soutien nécessaire.
Claude Guibal, vous étiez évidemment correspondante de Radio France au Caire. Il y a une autre histoire qui a fait aussi un peu le tour du monde. C'est celle de Samira Ibrahim, qui elle, a été... alors, vous allez nous raconter, enfin, qui a subi ces fameux tests de virginité qui ont traumatisé tout le monde. Est-ce qu'effectivement, les forces de l'ordre se permettent n'importe quoi, au moins au moment de la révolution?
Les forces de l'ordre se sont effectivement permis n'importe quoi, mais le phénomène que vous signalez préexistait à la révolution égyptienne, dans le sens où les violences sur les femmes sont déjà d'abord le fait de la société, et qu'à plus de 80% des femmes égyptiennes se disent victimes au quotidien de harcèlement sexuel.
Ouais, c'est les chiffres du Centre égyptien des droits de la femme. Alors, je voyais 83% disent qu'elles ont déjà subi une agression. Absolument, et 63% oui. Des hommes disent qu'ils ont déjà harcelé une femme.
Oui, vous êtes harcelé au quotidien de façon plus ou moins ouverte et violente, ce qui vous conduit en tant que femme à restreindre de vous-même votre accès à l'espace public, en allant par exemple dans le wagon des femmes dans le métro, alors que vous pourriez tout à fait aller dans le wagon mixte, mais de vous-même, vous restreignez votre accès à l'espace public. Ce qui est important, c'est qu'en 2005, quand les autorités égyptiennes et la police a commencé à réprimer de façon très ouverte des manifestations qui commençaient à prendre de l'ampleur, c'est effectivement vers les femmes qu'elle s'est attaquée, et pas directement, pas en utilisant directement les policiers, mais en utilisant ce qu'on appelle les baltaguia, qui sont des hommes de main. Et en 2005, je me souviens d'avoir participé, enfin d'avoir en tout cas assisté à des manifestations de femmes où les baltaguia avaient été envoyés justement pour leur faire peur, des femmes dont les vêtements avaient été déchiquetés, des femmes qui étaient victimes de pénétration digitale. Et le message envoyé était très clair, c'était que l'espace public n'est pas fait pour vous les militants. Et la façon la plus facile de s'y attaquer, c'est de s'attaquer à la femme. Parce que les parents en Égypte, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent à leur fille de 18 ans, 20 ans, écoute, tu es gentille, mais tu ne vas pas aller dans la rue. Et qu'est-ce que va dire un père à sa fille ? C'est non, une fille bien ne va pas aller traîner là parce qu'elle sait que ça va se produire. Alors là, on est dans la poule et l'œuf, on ne sait plus où ça commence et où ça finit. Le fait est qu'en s'attaquant à la femme, on réduit la liberté d'expression, on réduit l'espace public et donc on réduit la citoyenneté.
Merci Claude. On en vient maintenant à la question de la défense des prisonniers politiques. Alors ça, c'est, si j'ose dire, un grand classique pour Amnesty International, que de faire prendre conscience au monde qu'il y a des esprits libres qui coupissent derrière les barreaux. Et on va d'abord en Chine, pays des 200 000 avocats, dont l'un des plus célèbres se trouve actuellement en prison. Et pourtant, à 34 ans, c'était en 2001, le ministère de la Justice chinois l'avait distingué, le classant parmi les tout meilleurs défenseurs que comptait le barreau chinois. Seulement, Gao Jisheng a osé s'attaquer à un tabou absolu, ce que va nous expliquer maintenant à Pékin Philippe Reltien.
L'un des 10 meilleurs avocats de Chine est au pénitencier de Shayar, au milieu du désert du Xinjiang, depuis plus d'un an. Ce n'est pas le seul avocat en prison, mais c'est le plus emblématique. 48 ans, de la province du Shaanxi, chrétien, marié, sa femme et ses deux enfants ont fui en 2010 par la frontière du Vietnam pour les États-Unis. Il a été condamné le 22 décembre 2006 à 3 ans de prison avec sursis pour incitation à la subversion. En décembre 2011, son sursis a été révoqué et les États-Unis comme l'Union européenne ont demandé sa remise en liberté immédiate. Celui qui suit le dossier est l'avocat des droits de l'homme Teng Biao, un des signataires de la charte 08, co-rédigée par le Nobel de la paix en prison Liu Xiaobo. Devant nous, il appelle la dernière personne à avoir vu Gao Jisheng en prison, son frère aîné Gao Zheyi.
Tu l'as vu cette année au mois de mars ? Oui, j'y suis allé le premier jour du troisième mois lunaire, le 22 mars. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il avait écrit une lettre, c'est ça ?
Oui, il disait qu'il avait envoyé une lettre et qu'il allait bien. Il demandait des nouvelles de la famille, mais on n'a pas reçu sa lettre et toutes les lettres qu'on lui a envoyées, il ne les a pas reçues non plus.
Il n'en a reçu aucune.
Si, il a reçu une lettre de son neveu, mais pas celle de son petit frère.
Et ton quatrième frère, il y est allé ?
Pas encore, mais il va y aller prochainement.
Quel est son état de santé ? Comment il va ?
Je crois que ça peut aller, mais tant qu'il est en prison, ses amis qui s'inquiètent ne peuvent pas grand-chose pour lui, et il en souffre.
Son frère n'était pas parvenu à lui passer le message. On veut la révision de ton procès. Li Fengping, le deuxième avocat qui suit le dossier, nous explique l'échec de la dernière tentative pour le faire.
Il y a 2 mois, son frère a envoyé 2 avocates à la prison de Shayar pour s'enquérir de sa situation et lui demander d'écrire et de faire un rapport. À la prison, on leur a répondu que ce n'était pas possible, que ce service n'existait pas et que Gao Jisheng étant lui-même avocat, il n'avait pas le droit d'avoir d'autres avocats.
À quoi ressemble cette prison ?
La prison se trouve dans le district de Shayar, c'est à 800 km de Urumqi, la capitale du Xinjiang, dans un lieu très très reculé, dans une zone désertique au milieu du Gobi et dans une zone à accès contrôlé par l'armée.
Ce qui est reproché à Gao Jisheng est d'avoir défendu la liberté de culte, des églises clandestines ou des sectes comme celle du Falun Gong, interdite depuis 1999, une secte redoutée parce que capable de manifester devant les portes du palais. En 2005, Gao Jisheng est radié du barreau après 2 lettres ouvertes au président et au premier ministre. Il sera jugé pour incitation à la subversion après avoir publié sur Internet 9 textes critiques où il dénonce la torture. En 2007, il adresse une lettre au Congrès américain demandant aux États-Unis de boycotter les Jeux olympiques et affirme avoir été torturé à l'électricité à cause de cette lettre. 1 mois avant les Jeux, il est à nouveau porté disparu et ne réapparaît que pendant 1 mois en 2010, le temps de disparaître à nouveau. Sa femme et ses 2 enfants quittent le pays. À la question de savoir s'il pourrait suivre le même chemin de l'exil que le dissident aveugle Cheng Wansheng, son avocat Li Fengping répond qu'il y a une grosse différence entre les deux.
Je pense que les deux cas sont différents. La plus grosse différence, c'est que Gao Chongcheng s'intéresse à une question extrêmement sensible, qui est celle du Falun Gong, plus sensible que celle des avortements forcés. Par conséquent, pour qu'il puisse sortir, comme a pu le faire Cheng Wancheng, ça demandera encore énormément d'efforts. À mon avis, les questions du Xinjiang, du Tibet et du Falun Gong sont les trois sujets les plus sensibles de la Chine aujourd'hui, et ça le restera pour encore assez longtemps.
Le code de procédure pénale révisé va entrer en application le 1er janvier. Il devrait apporter deux modifications de taille. Le lieu de détention des suspects devra être notifié dans les 24 heures à la famille et les aveux obtenus sous la torture seront proscrits. Le professeur He Jiahong enseigne le nouveau droit à l'Université du Peuple, mais aussi aux policiers.
The revised criminal procedure law was just passed last March by the National People's Congress.
Le nouveau code pénal a été adopté en mars par l'Assemblée du Peuple et le changement vise l'usage de la torture dans les centres de détention. La loi dit que le suspect ne peut être contraint aux aveux forcés dans les cas criminels. C'est donc un peu une clause de présomption d'innocence, comme cela existe dans les pays occidentaux. Du moins, c'est écrit dans le texte. Et on a aussi une nouvelle disposition qui exclut de considérer des preuves obtenues illégalement. On attend de voir, mais je crois que ça prendra du temps de se débarrasser des vieilles méthodes, comme la torture.
Quant à la peine de mort en Chine, elle reste applicable aux trafiquants de drogue et aux terroristes. Elle vient d'être prononcée pour trois pirates de l'air ouïghours auteurs d'une tentative de détournement d'avion au Xinjiang. 4000 exécutions l'année dernière, c'est une estimation, soit devant un peloton, soit par injection létale. Le plus long couloir de la mort ne se situe pas en Chine, mais à Taïwan, où un condamné pour double meurtre, Shu Ho-shun, se bat depuis 24 ans maintenant pour obtenir une révision qu'on lui a déjà refusée 11 fois.
Voilà donc un reportage de Philippe Rel. Tiens, alors on va rester quand même en Chine juste quelques minutes, Geneviève Garrigos. Est-ce que vous avez des réponses des autorités chinoises quand on écrit comme ça des milliers de lettres pour défendre quelqu'un qui finalement a disparu?
Non, mais ça attire l'attention et ça montre que c'est pas parce qu'il est disparu qu'on l'oublie. Par ailleurs, c'est aussi du soutien à la famille et aux autres défenseurs des droits humains. Parce qu'à travers le cas de Gao Chongcheng, ce que l'on voit, c'est effectivement aujourd'hui comment les défenseurs des droits humains sont poursuivis en Chine, mais aussi leurs avocats. Et ça, c'est terrible. Et on a vu que le processus était accéléré, notamment l'année dernière, avec la révolution de jasmin. Vous savez que le mot jasmin était interdit sur la toile en Chine. Et tous ceux qui, justement, ont une parole libre et qui défendent ceux qui ont une parole libre sont persécutés. Et pour nous, comme vous le rappeliez au début de ce reportage, c'est un prisonnier d'opinion. Donc, nous demandons une libération immédiate et inconditionnelle.
D'accord, merci. Et alors, on termine notre tour du monde par un pays auquel on ne pense pas forcément spontanément, qui se veut le chantre de la liberté, les États-Unis, où trois hommes sont à l'isolement depuis des décennies. Alors, on les a baptisés les Angola 3, du nom du pénitencier qui se trouve en Louisiane et dans lequel ils sont enfermés. Deux d'entre eux sont encore là-bas, Albert Woodfox et Herman Wallace. Ils sont toujours en prison, accusés du meurtre d'un gardien blanc, meurtre qu'ils nient, évidemment. Un troisième homme lui a pu sortir en 2001. Il a réussi à prouver son innocence. Il s'appelle Robert King et nous avons réussi à le joindre au Texas où il habite désormais.
I was shipped to Angola sometime in 1972, May 1972. It's solitary confinement at the time. Initially, it was a cell that you had a blanket, you had a thin mattress, you had a...
J'ai été envoyé à la prison d'Angola en 1972. À l'époque, quand on était à l'isolement, on avait une cellule avec juste une couverture, un matelas fin et un petit coussin, et peut-être 6 livres, au mieux, pour lire. Et on restait 23 heures par jour dans la cellule, parfois 24 heures. Et pour n'importe quelle raison de sécurité, comme il disait, il pouvait fouiller toute la cellule et personne ne pouvait plus sortir, pas même pour prendre une douche. Évidemment, les choses ont changé, mais ces conditions étaient inhumaines. Par la façon dont on était nourri, on était comme des animaux. On vous mettait la nourriture dans des écuelles qu'il fallait traîner sous la porte et les portes étaient dégoûtantes. Vous savez, initialement, quand je suis allé la première fois, c'était en 61 à la prison. C'était l'idée que je me faisais de l'esclavage. Les gardiens étaient blancs, il fallait les appeler monsieur, il fallait pratiquement faire des génuflexions et se montrer servile. En plus, il fallait travailler 7 jours par semaine. Pour 2 cents par heure. Et en plus, souvent, il fallait travailler 16 heures par jour.
Et vous faisiez quel genre de travail ?
On coupait des cannes à sucre, enfin. On était à l'isolement, c'est ce que faisaient les autres prisonniers. Quand j'ai commencé à avoir une vraie conscience politique, j'ai voulu dénoncer tout ça. En fait, je me suis éduqué tout seul en lisant. Parce que, comme je vous le disais, j'étais très jeune en prison et j'ai eu beaucoup d'années pour réfléchir à tout ça. Et j'ai écrit un livre.
Est-ce que le pénitencier d'Angola ressemble aujourd'hui encore à ce que vous décrivez ? Est-ce que c'est toujours aussi sordide ?
En réalité, c'est bien pire que dans les années 60. Même s'il n'y a pas la même brutalité physique, il y a une brutalité psychologique insupportable. Autrefois, dans les années 60, un prisonnier était susceptible d'être un jour libéré, mais maintenant vous faites 40 ans et vous savez que vous ne sortirez jamais de prison.
On va parler un peu de vos deux camarades, de Albert et de Herman. Comment expliquez-vous, Monsieur King, qu'ils soient encore en prison tous les deux, alors que vous, vous avez été libéré en 2001 ?
Si les gens connaissaient notre affaire, ils sauraient que nous avions tous les trois des condamnations différentes. Et on nous a regroupés uniquement parce qu'on était membres du Black Panthers Party. Ils m'ont accusé d'un crime, j'étais à 150 miles de là. Et je n'avais jamais vu le gars qui a été tué. Quant à Herman et Albert, c'est très injuste, très injuste. Quand je suis sorti de prison, j'ai dit que j'étais débarrassé d'Angola, mais que la prison Angola ne serait jamais débarrassée de moi. Ça veut dire que depuis que je suis dehors, je fais en sorte que leur cas, Herman et Albert, mais pas seulement le leur, je pense aussi aux autres cas à travers le pays, enfin, je veux qu'on sache, qu'on mette en lumière ces injustices qui se passent en prison et que les gens ignorent. Je ne voudrais pas que ce que j'ai vécu arrive à qui que ce soit. C'est pareil pour Albert et Herman. Eux-mêmes ne veulent pas que cela arrive à d'autres ici en Amérique, dans ce que nous appelons la patrie de la liberté.
Voilà, donc Robert King qui est sorti de l'isolement en 2001. Vous diriez que Woodfox, Albert Woodfox et M. Wallace sont des prisonniers politiques ?
Mais écoutez, depuis le début, ils clament leur innocence et eux sont persuadés que s'ils ont été condamnés, c'est parce qu'ils faisaient partie des Black Panthers. Ce qu'il faut voir, c'est que les conditions de détention dans lesquelles ils sont, il y a 25 000 personnes aux États-Unis qui aujourd'hui sont détenues à l'isolement, ont été reconnues comme des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes par différents comités des Nations Unies. Et c'est pour ça qu'un juge fédéral de district a donné raison aux avocats tout à fait récemment et qu'on attend un jugement en 2013 en espérant que justement ils vont pouvoir au moins sortir de l'isolement.
Qu'il y a eu quand même plusieurs procédures et il y a eu même des juges qui ont demandé à ce qu'on revienne sur la condamnation, notamment de Wallace, je crois.
Ah, absolument, parce que notamment un des témoins aurait témoigné comme pour avantage. On retrouve un peu le même contexte finalement qu'on avait dans le cas de Troy Davis, qui a été exécuté il y a un an maintenant. Et c'est vrai que c'est tout le problème à la fois de la justice américaine et vis-à-vis des minorités ethniques, mais c'est aussi les conditions de détention. Et ça, il faut bien le signaler, parce qu'on a beaucoup parlé des conditions de détention à Guantanamo. Et là, on est dans des conditions qui sont très, très proches, parce que quand on est à l'isolement complet dans une cellule qui fait 6 mètres carrés, qu'on sort une à deux fois, voire trois fois par semaine.
Dans des cellules grillagées elles-mêmes.
Sans lumière du jour direct, etc. Sans livre, sans rien, vraiment dans des conditions humaines, ça détériore la santé et c'est vraiment c'est inhumain.
Geneviève Gorigos, juste un dernier mot sur le marathon des signatures. Est-ce qu'on peut encore signer maintenant ? Parce qu'il s'est achevé le 17 décembre, non ?
Oui, c'est ça. Mais on peut encore signer. Et puis, en plus, notre objectif, là, on a, eu un coup de projecteur sur eux. Mais on va continuer à travailler, à signer pour eux pendant toute l'année. Et donc, il faut continuer à aller sur Unis pour défendre leurs droits, et sur le site d'Amnesty International. Parce que il faut que la mobilisation nous permette d'obtenir rapidement des améliorations pour
et
toutes ces
peut-être
personnes.
Peut-être juste 10 secondes sur l'année dernière, vous aviez des cas que vous avez fait progresser grâce aux signatures.
Absolument, on a obtenu sur la moitié des cas que nous avons défendus, on a obtenu des améliorations significatives.
Merci beaucoup Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty France, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction consacré donc à la défense des droits de l'homme à travers le monde. Merci à Claude Guibal, au correspondant de Radio France, à la technique aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan, à la réalisation pour tous ces reportages Yacine Bouzard, merci beaucoup. Et puis vous pouvez réécouter ce magazine sur internet grâce à Sébastien Lopoukine.